au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. Nous avons déjà eu l'opportunité d'évoquer sur Canal Académie l'œuvre et la pensée d'un des plus grands économistes de notre époque, Jean Fourastier, qui fut membre de l'Académie des sciences morales et politiques, où il avait été élu le 25 mars 1968 dans la section morale et sociologie. Jean Fourastier, né en 1907, nous a quittés en 1990. C'est dire que sa pensée a couvert presque tout le XXe siècle. Et, il faut le dire parce que c'est le plus important, elle continue à féconder la réflexion sur la société aujourd'hui, tant dans sa dimension économique que dans ses dimensions sociales et humaines. Et si nous évoquons à nouveau Jean Fourastier, c'est que deux publications viennent de le remettre dans l'actualité. La publication d'un livre intitulé « Comment retrouver croissance et emploi, modernité de Jean Fourastier » paru aux éditions Publisud en 2008, et la publication d'un CD « Du grand espoir aux 30 glorieuses ». C'est un film de Jean-Luc Mage, produit par Caméra Lucida. Pour évoquer ces deux publications, j'ai le plaisir de recevoir le président du comité Fourastier, Jean-Pierre Chamou. Bonjour.
Bonjour madame.
Merci de nous avoir rejoints dans le studio de Canal Académie. Vous êtes professeur des universités, mais pas comme on pourrait le croire professeur d'économie, mais professeur de communication et de sujets de communication.
Voilà, j'enseigne la communication à des élèves parisiens avec qui je fais le tour des questions de communication depuis la publicité jusqu'au théâtre en passant par toutes les formes de communication moderne et notamment les télécommunications et Internet.
Tout cela à l'université Paris Descartes, Paris 5. Pouvez-vous tout d'abord nous présenter ce livre donc, qui a été publié sous votre direction? Comment est-il conçu? Comment est-il né? Et qui y a participé?
Alors cet ouvrage est né à la suite d'une rencontre internationale que nous avons tenue sous l'égide du comité Fourastier au Conservatoire des Arts et Métiers au mois de décembre de 2007. Et cette réunion avait pour propos de célébrer le centenaire de la naissance de Jean Fourastier, qui était, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, né en 1907. Et nous avons eu une très très belle participation à ce colloque et parmi les participants, une bonne douzaine d'entre eux ont accepté, après le colloque, de résumer sous une forme écrite ce qu'ils avaient en main aujourd'hui pour leur vie quotidienne comme héritage de Jean Fourastier, passé au crible de l'actualité, et ce sont ses contributions, toutes écrites à l'issue du colloque de décembre 2007, que nous avons réunies dans cet ouvrage, qui n'est pas un très gros ouvrage par la taille, mais qui est un ouvrage très dense, où une douzaine de contributions diverses, sur lesquelles nous pouvons revenir, si vous voulez, pour certaines d'entre elles, et dont notamment la contribution de trois membres de l'Institut, ces contributions montre que le legs de Fourastier ne s'est pas arrêté le jour de sa disparition, mais qu'au contraire, après 1990, après son décès, bien des choses qu'il avait dites, écrites, enseignées au cours de sa vie universitaire et de sa vie professionnelle, avant même qu'il ne soit professeur au Conservatoire des Arts et Métiers, sont très en ligne avec les problèmes d'aujourd'hui et nous offrent des clés pour lire l'économie ou l'économie politique d'aujourd'hui à la lueur d'une pensée très forte, très solide, très empirique, qui malheureusement n'est pas aussi commune qu'on pourrait l'espérer dans le milieu de l'économie contemporaine.
Néanmoins, elle est très connue des étudiants, je suppose.
Alors, la pensée de Fourastier comme pensée fourastienne est assez peu connue et malheureusement pas beaucoup enseigné aujourd'hui, sous la forme où il l'a lui-même professé pendant près de 25 ans au Conservatoire des Arts et Métiers. Par contre, cette pensée a laissé des traces, et elle a surtout laissé des traces dans l'économie réelle, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire au sein des économistes de l'industrie, des économistes de la banque, des économistes de l'assurance, des prévisionnistes, qui tous, depuis les services publics les plus reconnus, comme l'Institut national de la statistique, jusqu'à la direction du Trésor ou de la comptabilité publique. La plupart de nos grands économistes vivants et travaillant aujourd'hui ont connu Fourastier, ont lu Fourastier et s'inspirent de Fourastier dans une partie de leurs travaux actuels. J'en prendrai deux exemples actuels, si vous le permettez, qui sont d'ailleurs l'un et l'autre des auteurs de contributions dans cet ouvrage. Le premier, c'est Michel Pébrot. Michel Pébrot venait juste d'entrer à l'Institut lorsqu'il a eu la gentillesse de nous donner cette contribution. Michel Pébrot est un des hommes d'affaires les plus en vue aujourd'hui, en même temps qu'un très, très grand esprit, extrêmement délié et tout à fait un homme tout à fait remarquable. Sa contribution dans notre ouvrage est la contribution de quelqu'un qui a vécu dans l'entreprise fort longtemps et qui nous explique le cercle vertueux de l'emploi tertiaire dans la société d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il nous démontre, avec des illustrations extrêmement vivantes, comme l'aurait fait Fourastier lui-même, que le secteur tertiaire n'est pas un secteur de l'économie parasitaire, mais qu'il contribue à la création de richesses et à la création d'emplois, dans une proportion très supérieure à celle des activités manufacturières ou des activités d'extraction de la terre ou de l'agriculture, et que ce signe particulier des économies d'aujourd'hui doit être prise en très bonne part et non pas critiquée comme l'ont fait un certain nombre des économistes moins empiriques ou des gens qui ont moins reconnu l'importance de l'activité tertiaire dans les pays développés comme le nôtre ou comme les États-Unis ou comme la Grande-Bretagne et même comme l'Allemagne. Donc la contribution de Michel Pébrot est une pièce tout à fait intéressante de quelqu'un qui vit dans l'entreprise, qui dirige de très grandes affaires internationales soumises aux difficultés de la conjoncture depuis le milieu de l'année 2008, certes, mais de grandes affaires quand même. Et ces grandes affaires, elles sont conduites par un homme qui s'inspire très profondément de Fourastier et qui en reconnaît les mérites comme guide intellectuel pour l'action.
Vous l'avez dit, Jean-Pierre Chamou, il y a également d'autres membres de l'Académie des sciences morales et politiques qui ont contribué à cet ouvrage, et notamment le secrétaire perpétuel Michel Albert.
Alors, c'est grâce au soutien très cordial et à la délégation qu'il a eu la gentillesse de me donner, puisqu'il m'a passé les rênes du comité Fourastier, dont il était président avant moi, et je pense ça comme un très grand honneur, une grande marque de confiance, et il a eu la gentillesse de préfacer cet ouvrage, et c'est d'ailleurs lui qui avait aussi assuré l'ensemble de la présidence du colloque de 2007 auquel je faisais allusion en commençant notre entretien. Donc Michel Albert en a fait la préface et dans cette préface, il exprime très très clairement l'importance de la pensée de Fourastier sur une vision à long terme de l'économie, c'est-à-dire qu'il, lui aussi, qui a été un très grand serviteur de l'État, mais aussi un homme d'affaires émérite dans le secteur de l'assurance notamment, il décrit très clairement dans les quelques pages de cette préface en quoi la pensée de Fourastier nous sert, je reprends cette expression pour la seconde fois, comme un guide d'action pour l'économie réelle.
Mais on peut également mentionner la postface, puisqu'elle est due à Jean Cluzel, qui nous tient particulièrement à cœur, puisqu'il est le président de Canal Académie.
C'est le président de l'activité dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui.
Absolument. Et en plus, Jean Cluzel occupe le fauteuil précédemment occupé par Jean Fourastier. Voilà. Donc lui, il a fait une postface qui est plus sur l'homme.
Voilà, c'est un texte qui vient naturellement plus facilement en postface qu'en préface parce que au lieu de s'intéresser à l'œuvre qu'il ne néglige pas pour autant, il a mis l'accent et c'est un élément vivant tout à fait important pour entretenir la connaissance et la crédibilité de la pensée de Fourastier. Il met l'accent sur l'homme, sur ses qualités éthiques, morales, sur son engagement dans la société. Et comme il a été son successeur et qu'il a fait son éloge le jour où il est entré dans cette grande compagnie, il était tout à fait essentiel pour nous qu'il puisse avoir la parole, comme il l'avait eu aussi d'ailleurs au moment de la remise du dernier prix Fourastier, que j'ai eu le plaisir de remettre avec Jean Cluzel, à deux brillants lauréats dont la contribution, qui est une contribution postdoctorale, se trouve ici à côté de celle des personnages plus anciens et plus éminents, dont parmi lesquels j'ai cité tout à l'heure M. Michel Pébrot.
N'y a-t-il pas un homme qui n'a pas contribué directement à ce livre, mais dont la pensée me semble assez présente aussi? C'est celle de Pierre Tabatoni, aussi de l'Académie des sciences morales et politiques.
Alors, Pierre Tabatoni aurait dû, s'il avait pu vivre un peu plus longtemps, ce que j'ai pour ma part beaucoup aimé. Normalement, c'est Pierre Tabatoni qui aurait dû présider ce colloque, puisque c'était lui qui était le successeur naturel de Michel Albert. Et son décès prématuré et dans des circonstances imprévues et à caractère dramatique a fait que, évidemment, il n'était pas présent en 2007, mais il m'avait beaucoup inspiré une partie de ce que nous avons fait là. Et d'ailleurs, vous avez pu le remarquer, madame, je dédie ce livre dans la page de garde à la mémoire de Pierre Tabatoni, qui a été pour moi à la fois un très grand maître et, je peux le dire sans, je pense, faire un abus de langage, un ami extrêmement fidèle. Nous n'avions pas le même âge, mais il m'avait accordé son amitié et je l'ai pris comme un cadeau du ciel.
Parmi les contributeurs éminents, alors il nous faut maintenant aborder Robert Solow, qui je crois est prix Nobel d'économie.
Alors Robert Solow a été l'un des lauréats éminents, il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années, de ce que l'on appelle le Nobel d'économie, qui est le grand prix accordé par la Banque de Suède. Et Solow est un spécialiste de la productivité. Et de la productivité générale, c'est-à-dire de la productivité de l'ensemble de nos économies. Et j'ai été extrêmement heureux qu'il accepte de s'associer à ce travail, par sa présence d'abord quand nous avons eu cette grande réunion internationale à Paris, et ensuite par une contribution écrite qui est un petit bijou, puisque dans le message de Robert Solow, il souligne en substance que le vieillissement de nos populations, qui est une caractéristique de l'Europe, mais aussi de l'Amérique du Nord et de beaucoup d'autres pays dans le monde, comme le Japon, le vieillissement de notre population ôte progressivement une partie de la population active, de l'activité. Et elle, comme les gens vivent plus vieux et que, heureusement qu'ils vivent plus vieux et qu'ils restent vaillants beaucoup plus longtemps qu'auparavant, produit de la technologie et du progrès scientifique, notamment autour du biomédical. Grâce à cela, notre population vieillit et elle repose sur un nombre le plus faible des générations montantes et qui, elles, créent encore de la richesse. Et donc Solow nous dit, vu la pyramide des âges, en substance, vu la pyramide des âges qui fait reposer sur un nombre le plus faible de plus jeunes le bien-être d'une population vieillissante, nous devons accroître la productivité de cette population plus jeune plus vite encore que nous ne vieillissons et par conséquent accélérer notre productivité, c'est faire appel à plus de progrès techniques et c'était les deux clés de la pensée de Jean Fourastier. Et je retrouve avec Solow, qui est un Américain, très Américain par certains côtés, et un professeur à MIT, c'est-à-dire une grande université technologique américaine, je retrouve la même pensée avec la même conclusion que celle qui conduisait Fourastier au commissariat général au plan dans les années 60, à dire il faut augmenter la productivité française, c'est le seul moyen d'augmenter notre bien-être. Solow, aujourd'hui, avec d'autres conditions démographiques, nous dit la même chose. C'est quand même une très belle conjonction de deux très grands esprits.
Et vous-même, Jean-Pierre Chamoux, vous écrivez dans le prologue de ce livre, alors je vous cite, c'est page 16, « Cette pensée, donc la pensée de Fourastier, n'est jamais passée de mode. Au contraire, elle est plus d'actualité que jamais, en cette période qui apporte une confirmation éclatante aux principales conclusions que Fourastier tirait de son expérience. » Vous maintenez vos propos, je suppose.
Alors, non seulement
c'est sur cette modernité.
Non seulement je le maintiens, madame, mais bon, l'essentiel des textes que nous avons réunis là ont été réunis avant le mois de septembre de 2008. C'est-à-dire qu'ils ont été écrits à la fin du printemps ou pendant l'été 2008, période où la société américaine commençait à voir ressentir le début de la crise financière et industrielle que nous avons aujourd'hui en plein au cœur de notre vie économique, mais que nous n'avons touché en Europe et en France en particulier qu'à partir de la mi-septembre. Et donc, lorsque j'ai mis cet ouvrage sous presse, il est sorti au mois de novembre 2008 et il a été bouclé au mois de septembre 2008. Tout ce qui a été écrit de ma plume et de la plume des autres contributeurs a été écrit à un moment où nous n'avions pas véritablement la crise devant nous. La crise nous fait apparaître plusieurs choses qui ne sont pas l'objet de notre conversation d'aujourd'hui, en particulier sur les évolutions de la finance et de l'endettement, de mécanismes d'endettement de la société contemporaine, mais elle fait apparaître aussi quelque chose de tout à fait important, c'est qu'il n'y a pas de création de richesse durable si cette richesse ne repose pas sur les deux clés que j'évoquais à l'instant, qui est l'amélioration de la productivité du travail humain, faire plus avec moins, plus de richesse avec moins de temps de travail, faire plus de richesse avec moins de matières premières, plus avec moins. Ça, c'est la productivité. Et la deuxième chose, c'est donner à l'homme l'occasion d'améliorer sa propre production, sa propre contribution à la croissance et contribution à la richesse, en étant plus savant, mieux formé, plus spécialisé, plus ouvert à la nouveauté. Progrès technique et productivité, la progrès technique c'est aussi l'imagination de l'homme qui le crée, ce sont les deux clés de la pensée fourastienne et ces deux clés, c'est les seuls moyens que nous ayons aujourd'hui à notre portée pour sortir de la crise. En sortir par le haut, c'est-à-dire en faisant plus avec moins, plus d'énergie avec moins de pétrole, plus de travail avec moins de temps passé au bureau. Les merveilles de la société communicante par l'Internet permettent de faire beaucoup, beaucoup de choses à distance. Tout ceci, c'est des modes de création de richesses nouvelles qui sont directement dans la ligne de la pensée fourastienne. C'est pour ça que finalement, malgré la crise, je ne regrette rien de ce que nous avons rassemblé dans ce bouquin, écrit très peu de temps avec la crise, mais pas du tout inspiré par la crise, je dois l'avouer.
Mais derrière les propos économiques, j'entends aussi tout un discours humaniste de Jean Fourastier, c'est-à-dire une position de l'homme quand vous dites qu'il faut que chacun contribue par ses compétences à améliorer la société. Ça n'est pas seulement économiquement, c'est aussi, je suppose, de manière plus humaine. Il y a donc une dimension humaniste dans son discours, je suppose.
Alors, il y a un ouvrage de Fourastier qui s'appelle « Machinisme et bien-être », dont le titre est aussi une clé de lecture de sa pensée. Le machinisme, c'est le produit des progrès techniques. Fabriquer une automobile avec des robots, ce n'est plus fabriquer une automobile directement avec la main de l'homme et avec une clé à molette. Le machinisme est un des moyens de faire plus avec moins de temps de l'homme et également des conditions de travail moins pénibles. Le machinisme n'est pas l'instrument du bien-être, mais c'est une des conditions du bien-être. Et c'est ce que nous répète Fourastier constamment. Cela dit, le machinisme en lui-même, comme tout instrument productiviste, n'a de sens que dans le contexte d'une société où on met ce machinisme au service du bien-être, le bien-être étant aussi un mieux-être. Et il est très certain, par exemple, qu'en économisant du temps de travail dans des ateliers poussiéreux et désagréables ou bruyants, comme ceux des usines Renault de 1950, on a fait un très grand progrès pour la condition des gens qui y travaillaient, des agents techniques ou des ouvriers qui y travaillaient, et on fabrique des autos qui sont également plus confortables, plus sûres et plus agréables à conduire ou pour s'y faire transporter par un conducteur. Et donc, la modernité de cette vision qui croise le machinisme avec le bien-être est... Elle a une dimension morale, sans aucun doute. Cette dimension morale a été tout à fait soulignée par le propos de Jean Cluzel qui a été très très sensible, c'était, je dirais, une inspiration démocratienne qui n'a jamais été totalement absente de la pensée de Fourastier.
Jean-Pierre Chamou, un mot sur le film, alors que vous pouvez aussi proposer ce film écrit et réalisé par Jean-Luc Mage sur Jean Fourastier.
Alors, ce film, ce n'est pas un film de cinéma, c'est un film de 52 minutes qui a été réalisé avec le support de l'Institut national de l'audiovisuel, l'INA, et de France 3, pour une diffusion télévisée. Alors, ce film est, à la différence du livre, qui n'est pas du tout un mémorial sur Jean Fourastier, mais qui est une illustration de l'utilité moderne de la pensée de Jean Fourastier. Ce film est, lui, une illustration un peu plus poétique par moments, plus déconnectée du contexte de la production de la richesse contemporaine. Elle met Fourastier dans son temps, Elle utilise des images d'archives qui sont très intéressantes, des émissions de télévision ou des morceaux de films tournés du vivant de Fourastier pour montrer l'homme qui vit et qui échange avec autrui, y compris d'ailleurs dans son amphithéâtre. Et avec cela, Jean-Luc Mage a eu l'intelligence d'évoquer le personnage et de montrer que le personnage avait une dimension autre que celle qu'on peut lui accorder en lisant des livres dont certains sont assez sévères ou assez, enfin, très concrets et pas très poétiques. Mais là, il a mélangé astucieusement plusieurs genres en évoquant un personnage qui apprend une véritable épaisseur et qui prend une véritable dimension morale. Et de ce point de vue-là, c'est très intéressant, surtout qu'il l'inscrit dans son temps qui a été un temps de très très grands changements des conditions de vie d'une grande partie de la France. Et le thème central d'ailleurs de la pensée de Fourastier, c'est de rappeler qu'il est né dans une France où près de 60% de la population était rurale et agrarienne, et il est mort dans une France où à peine 10% de la population était encore rurale, 80 ou 85% de la population était véritablement urbaine et où plus personne ne connaît les poissons autrement que sous la forme des poissons, des morceaux de poissons carrés congelés que l'on trouve dans les supermarchés. Et Fourastier n'a pas dit ça sous cette forme, mais il aurait pu le dire car il avait le sens de l'image et de l'illustration. Et donc, dans une France où le poisson, pour beaucoup d'enfants, est un morceau congelé de viande de poisson carré, le rapport à la terre n'est plus le même, le rapport au rythme des saisons n'est plus le même, le rapport à l'eau et aux quatre éléments n'est plus le même. Et ça, Fourastier l'a regardé avec un certain détachement, mais en même temps avec une petite nostalgie. Et le film donne un petit peu de cette nostalgie dans certains de ses passages pour montrer quand même que, comme pour chacun d'entre nous, la période de notre jeunesse et de notre enfance est forcément plus romantique que la période actuelle.
Jean-Pierre Chamou, merci infiniment de nous avoir présenté ce livre. Donc, je rappelle son titre, « Comment retrouver croissance et emploi, modernité » de Jean Fourastier. C'est publié aux éditions Publisud. Et de nous avoir présenté aussi ce film « Du grand espoir aux 30 glorieuses », un film produit en DVD par Jean-Luc Mage. Je voudrais aussi dire qu'on peut retrouver tous les renseignements et des informations nombreuses sur le site du comité Jean Fourastier, qui est un site tout à fait accessible et fort bien fait. Merci de votre présence.
Merci beaucoup de votre invitation, madame. J'ai eu très grand plaisir à échanger avec vous et avec les lecteurs et les auditeurs à distance de cette radio web d'un type nouveau.
Merci. Au revoir.
Au revoir, madame.